Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique, qui évoque la semaine politique québécoise et canadienne écoulée avec quatre sujets. Les révélations sur les intentions de Trudeau père d'affamer économiquement le Québec sous René Lévesque. La Cour dit que la page de dénonciation dit son nom sur les médias sociaux ne peut rester anonyme. Benoît Charrette, nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme et Québec solidaire veut hausser les impôts de 50%. Mais tout d'abord, Clint Bruce, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université Sainte-Anne, nous dresse un portrait de la francophonie néo-écossaise dans la conjoncture politique provinciale. Cette minorité connaît un sort autrement plus favorable que l'Acadie du Nouveau-Brunswick, pourtant plus populeuse et forte. Bonjour Clint.
Bonjour, vous allez bien aujourd'hui?
Correct, vous aussi?
Ben, écoutez, on reste dans l'impossibilité de voyager, mais je peux vous avouer que ça me fait du bien de me connecter à Montréal une fois par mois pour discuter de nos dossiers francophones, et ça fait un peu voyager par l'esprit.
Est-ce un appel du pied, Clint, pour faire davantage de prestations?
Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Parce que vous avez Ifrenet, en fait, qui
tout à fait
avec moi, c'est ça?
Oui, la crème de la crème. Dites-moi, vous nous amenez, vous êtes déjà vous-même en Nouvelle-Écosse, on va en parler aujourd'hui de la francophonie néo-écossaise avec un nouveau premier ministre libéral.
Voilà, donc il s'appelle Ian Rankin, c'est un jeune homme, je vais dire cela, parce qu'il est plus jeune que moi, il a 37 ans, et il est vu comme, et il s'annonce comme un allié de la communauté acadienne et francophone, et c'est une bonne chose. Donc il est en train de projeter une image positive des relations qu'il pourrait y avoir avec notre collectivité francophone, en même temps qu'il y a des dossiers importants sur la table, à la fois au niveau provincial et fédéral. Aussi. Donc c'est un peu ça le sujet. J'aimerais en profiter si on peut prendre un moment pour que l'auditoire ait un portrait de la francophonie néo-écossaise, parce que j'ai l'impression que, à moins d'avoir visité les régions, que ça peut sembler nébuleux, hein, vu du Québec. Ça ressemble à quoi? C'est une petite population. Ils sont où ces francophones? Quand je vais me rendre là-bas, comment je vais les rencontrer? Donc on peut prendre peut-être une petite minute pour brosser ce portrait-là, si ça vous va.
Je vais y réfléchir, je vous donne ma réponse dans un mois, mais entre-temps, je vous donne le bénéfice du doute. D'abord, démographiquement, ils sont combien sur combien?
Ben, nous, je vais dire nous, c'est un petit chiffre, hein, on parle de 3,2% d'une population de 912 000 environ, donc environ 30 000 personnes. C'est ce qui est intéressant quand on parle de la minorité de langue officielle, hein, vraiment les francophones qui se définissent comme tels. Mais il y a un petit détail intéressant dans le dernier recensement. La connaissance du français est plus répandue en Nouvelle-Écosse qu'ailleurs au Canada. Donc presque 11% de la population parle les deux langues officielles. Il y a plus d'anglophones qui parlent français chez nous qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui est une province bilingue.
À cause de l'immersion française ou quoi?
Si c'était la réponse, ça devrait être le Nouveau-Brunswick qui remporterait la palme, mais pourtant, c'est pas le cas. Donc, en fait, il y a plus de programmes d'immersion, à ma connaissance, au Nouveau-Brunswick, mais je pense que ceux qu'on a peut-être donnent de meilleurs résultats. C'est peut-être les mouvements de population, c'est-à-dire les gens qui viennent s'installer en Nouvelle-Écosse, ont tendance à être bilingues, et je n'ai pas d'hypothèse forte là-dessus. Mais je tiens quand même à le souligner, parce que ça marque un contraste intéressant, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport au Nouveau-Brunswick, ou même l'Ontario, où il y a 500-600 000 francophones, et pourtant il y a un gouvernement qui adopte un anti-bilinguisme virulent par moment. Hein? Et c'est la même chose.
Ifrenet en a bien parlé. Je m'en souviens, Ifrenet a assez longuement étendu là-dessus. Donc, bon, on parle de 3,3%, à peu près 30 000 francophones, si j'ose dire, de souche ou de langue maternelle française. Est-ce qu'ils sont encadrés par le gouvernement? Est-ce que c'est une province, elle n'est pas officiellement bilingue? Que fait le gouvernement pour cette minorité-là?
Ben, tout à fait. Donc, d'abord, juste pour un peu voir où nous sommes, il y a des foyers historiques. Il y a des communautés qui ont été établies soit avant, soit après la déportation des Acadiens. Et je suis dans une de ces communautés-là. On a aussi la région du Grand Halifax, où il y a un certain nombre de familles immigrées. Il y a des fonctionnaires et il y a des Acadiens installés là aussi. Et on a ce qu'on appelle des régions émergentes, des plus petites villes, mais où il y a une école francophone, un centre communautaire, une vie francophone, quoi. Et oui, effectivement, on est relativement bien encadré pour une si petite minorité. Il y a un ministère provinciale des affaires acadiennes et de la francophonie. La ministre, c'est l'honorable Léna Diab, avocate d'origine libanaise. Il y a un office des affaires acadiennes qui veille à l'offre de services en français. Et on a une loi sur les services en français depuis 2004. Donc quand moi je veux consulter le site web du gouvernement, d'ailleurs pour faire un peu de recherche pour cette chronique, je suis allé voir le site web de l'Assemblée législative. C'est tout en français, j'ai les mêmes informations. Si je veux mon permis de conduire, je peux m'organiser pour l'avoir en français. C'est pas trop difficile dans notre région. Quand je veux appeler avec une question Santé Nouvelle-Écosse, ces services sont là. Et donc ça existe depuis 2004, cette loi-là. Et un autre morceau très important, c'est la gestion des écoles. Hein. C'est la gestion scolaire. Et depuis les années 90, il y a le Conseil scolaire acadien provincial, on dit le CSAP, qui assure l'autonomie en matière d'éducation, une certaine autonomie. Donc c'est une francophonie encadrée, et ce qui aide à la maintenir et à la développer malgré l'assimilation qu'il ne faut pas nier.
Y a-t-il beaucoup d'immigrants qui francophones en Nouvelle-Écosse ou pas, Clint Bruce?
Il n'y en a pas assez. Je pense que c'est un peu la réponse que vous allez trouver partout à l'extérieur du Québec ou peut-être de l'Ontario. Il y en a. Il n'y en a pas assez. Nous, ici, à l'Université Sainte-Anne, on reçoit pas mal d'étudiants, surtout d'Afrique subsaharienne. Mais il y en a quelques-uns qui restent. Mais comme vous le savez peut-être, venir étudier, ce n'est pas forcément une voie vers l'immigration.
Non, effectivement.
Oui, donc ça peut le devenir. Il y a des jeunes qui sont très enchantés. J'ai parlé, en fait, un de nos étudiants du Cameroun, je crois, il m'a confié l'autre, juste avant la pandémie, qu'il adore aller dans les lacs faire la pêche dans la région, ici. Et je me suis dit, bon, ça c'est peut-être un jeune homme qui restera après son diplôme. Pour l'encadrement, je dirais qu'on a une situation qui n'est pas défavorable. Mais évidemment, cela est venu s'installer après deux siècles de marginalisation. Hein? Et c'est là où on peut en venir avec les dossiers de l'heure et des dernières années, notamment au niveau de la représentation politique.
Oui, alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de députés acadiens pour si peu de monde?
C'est ça la question. Ça, c'est un de ces dossiers. Et la réponse va un peu vous donner une idée quant à pourquoi c'est bien d'avoir un premier ministre qui parle français et qui aime les Acadiens. Brièvement, sur la députation fédérale, il y a 11 membres du Parlement canadien de la Nouvelle-Écosse à Ottawa. Mm-hmm. Et il y a deux Acadiens. De notre circonscription, il y a Chris D'Entremont. Et d'une autre circonscription plus proche de Halifax, Daryl Sanson. Donc ça, c'est au niveau fédéral. Au niveau provincial, et c'est là où le bas va un peu blesser, c'est une assemblée législative composée de 51 membres, et où il y avait des circonscriptions acadiennes réservées ou protégées. Il y en avait trois jusqu'en 2012, pendant 20 ans en fait. Entre 1992 et 2012, il y avait trois circonscriptions à majorité francophone à l'extérieur de Halifax, donc dans les régions traditionnellement acadiennes. Et il y avait aussi, Jean-Philippe, une circonscription à majorité afro-néo-écossaise.
Oui, ça on l'oublie parce qu'ils sont 70 000 à avoir quitté les États-Unis sous l'esclavage, je pense. Non, ils sont allés en Nouvelle-Écosse.
Tout à fait. La riche histoire des loyalistes noirs et aujourd'hui de la communauté afro-néo-écossaise, qui comprend évidemment des gens de partout aussi. Hein. Donc en fait, ça ressemble un peu à l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Sous ce rapport-là, il y a une communauté historique à laquelle peuvent venir s'ajouter d'autres populations qui s'y reconnaissent en fait, hein, qui vont fréquenter les institutions et tout. Donc on avait ces quatre circonscriptions-là, et ça vaut la peine de le souligner, c'était pas une garantie d'élire un Acadien ou un Noir. C'était pas le but. C'était de donner la chance, en fait, la chance de le faire, de ne pas être dilué dans des plus grandes circonscriptions avec des villes avoisinantes, par exemple. Et donc, en 2012, un gouvernement néo-démocrate a aboli ces circonscriptions-là, et ça a vraiment blessé la communauté acadienne. Et je vais le dire, parce qu'on va parler un peu des partis politiques, quand je suis arrivé en 2015, la méfiance, et je dirais la rancœur était encore là envers le NPD, envers le nouveau parti démocratique.
Pardonnez-moi, Clint, mais pourquoi
le parti fédéral? Oui.
Pourquoi est-ce que le NPD provincial avait supprimé ces circonscriptions réservées aux Acadiens? Quel était leur raisonnement?
Le raisonnement était démographique. Donc on a affaire à des régions dont la population stagne ou diminue.
Oui.
Et donc de dire tout simplement, le moment est venu d'opérer un découpage, de redessiner la carte électorale. Mmh. Et on va faire une agglomération de deux circonscriptions. On va retracer les frontières autrement. Donc on n'a pas compris nécessairement que c'était comme les mesures qu'on voit en Ontario, une attaque en règle contre les francophones. C'était plutôt une indifférence à la fois à la présence politique, à la représentation, à la voix des francophones et aussi aux injustices historiques. Parce que si on est si minoritaire, c'est parce qu'il y a eu des injustices, hein, parce qu'il y a
Évidemment.
Eu, on a été privé d'école, voilà, c'est ça.
Pardonnez-moi. Clint Bruce, bon, ça, on a parlé du NPD, on parle. Les libéraux sont pro-acadiens pour l'instant et l'apparition de Ian Rankin n'est pas vraiment une révolution chez les libéraux qui sont pro-francophones. J'imagine que les conservateurs voient ça d'un très mauvais œil, non, comme au Nouveau-Brunswick?
Non. Et je dirais que c'est ça, c'est là où on peut vraiment marquer un contraste par rapport au Nouveau-Brunswick.
Oui.
Ici, en Nouvelle-Écosse, je dirais qu'on a encore des vrais progressistes conservateurs, comme il y en avait dans le bon vieux temps. Et donc, ce clivage, les clivages n'est pas partisan. Donc, le précédent premier ministre, le premier ministre qui vient de sortir, Stephen McNeill, qui était en poste depuis 2013, et qui a décidé de se retirer après une gestion recommandable à tout point de vue de la pandémie. Lui aussi, en fait, il entretient de très bonnes relations avec la communauté francophone, mais c'est pas l'apanage des libéraux chez nous, comme ça l'est devenu au Nouveau-Brunswick et en Ontario.
D'accord.
La différence qu'apporte Ian Rankin, c'est qu'il a fait l'immersion, il se vante de parler français, il a employé, il y avait des passages de son discours d'acceptation de la chefferie et aussi d'investiture en français, et cela a été très très bien reçu. Et depuis, il a pris des engagements de favoriser les lois qui vont moderniser les structures, la gestion scolaire. Étant donné notre faible poids démographique, comme on dirait, il n'est pas obligé de faire ça. Et il le fait vraiment par bienveillance et je pense aussi par un sens de justice. J'ai eu la chance, on pourra y revenir, de m'entretenir avec la directrice de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la FAN, Marie-Claude Rioux, qui va dire, elle vous le dirait, je ne suis pas partisane, hein, elle va le dire, mais elle a dit, et je cite, pour nous c'est une main tendue, et donc elle attend avec beaucoup d'impatience les rencontres avec les interlocuteurs gouvernementaux.
Pardonnez-moi, Clint, mais je ne comprends pas vraiment le revirement pro-francophone en Nouvelle-Écosse. Dans la plupart des partis, enfin, il n'y a pas l'animosité qu'il y a au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, je dirais pas un coup de foudre, mais qu'on apprécie ses voisins minoritaires?
On peut en faire une lecture cynique, c'est-à-dire que là où les francophones disposent de plus d'acquis, de droits et de pouvoirs, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, la francophonie peut être perçue d'abord comme un fardeau fiscal et comme une menace. C'est un peu ces cartes-là qu'on joue, hein, dans le camp anti-bilingue. D'abord que le français joue contre nous dans la concurrence pour des postes, alors qu'à moins de 4%...
Vous n'êtes pas dangereux, on peut être gentil avec vous.
Oui. Ça, c'est la lecture cynique. C'est la lecture cynique. Mais vous savez aussi, il y a eu, je veux dire, moi j'ai un peu étudié la période des années 70, et il y a toujours eu une aile, je ne sais pas s'il y a toujours eu, mais il y a eu une aile pro-bilingue du Parti conservateur. Au Nouveau-Brunswick, le conservateur Richard Hatfield, c'est un peu lui qui a fait aboutir un peu l'enchâssement des droits des francophones au niveau provincial. Hein. Donc ça n'a pas été, il n'y a pas eu des clivages selon les lignes de parti jusqu'à plus récemment, je dirais. Et donc je pense que cela a un peu resté en Nouvelle-Écosse. C'est aussi une survivance.
Il nous reste 4-5 minutes, Clint Bruce. Alors, les grands dossiers de Ian Rankin face à la communauté acadienne, quels sont-ils pour les années à venir?
Donc, il il y a eu en 2017, il y a eu une commission il y a eu une contestation judiciaire de l'abolition de ces circonscriptions acadiennes et circonscription afro-néo-écossaise, et le redessinage de la carte a été jugé inconstitutionnel. Alors, donc il y a eu une commission d'enquête et on va les rétablir, les trois circonscriptions. Ce que la fédération acadienne voudrait, c'est qu'il y en ait une quatrième circonscription acadienne dans la région de Chétiquan, au Cap-Breton, et donc cela porterait le nombre de députés des circonscriptions à 56 et donnerait plus de pouvoir aux francophones. La FAN est en train de faire des démarches pour que cela aboutisse. Mais en principe, quand on aura des élections l'année prochaine, il y aura ces circonscriptions acadiennes. Donc ça, c'est un dossier de les rétablir et éventuellement de les élargir. Il y a aussi une question sur le recensement qui s'en vient, le recensement de 2021 qui embête beaucoup sur le formulaire court. La question linguistique ne donne pas l'option d'indiquer qu'on parle et français et anglais à la maison. Alors que c'est
on
la
est
réalité
l'un ou l'autre.
Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ce qui écarte la réalité de beaucoup de gens. Et ça, il va vraiment falloir changer cela. Et ce que Marie-Claude Rioux de la FAN m'a dit, évidemment, c'est un dossier fédéral, mais elle m'a dit quand même que ça aide d'avoir des alliés, des interlocuteurs au palier provincial, hein, au niveau provincial. Donc ça, c'est un dossier. Également. Et puis, là, je ne sais pas si ce sera abordé plus tard dans votre chronique, il y a la modernisation de la loi sur les langues officielles, qui est un des grands dossiers de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Et c'est un dossier aussi pour la Nouvelle-Écosse, hein, donc de renforcer les mesures en faveur de la francophonie, surtout à l'extérieur du Québec, mais pas uniquement. Donc ça, ce sont quelques grands dossiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas une révolution qu'on est en train de vivre, mais on est peut-être en train de vivre un moment où des choses vont devenir possibles, où des choses qui étaient déjà possibles seront plus faciles. Et avec la pandémie, il n'y a rien de facile, alors c'est déjà ça de gagner.
Pas de révolution, mais une évolution, Clint Bruce. Dites-moi une chose, est-ce qu'il y a une solidarité intra-acadienne, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et dans encore moins Terre-Neuve, est-ce qu'il y a... Il y a une acadianité ou est-ce qu'on est devenu très, très, comment dirais-je, cloisonné provincial?
Le cloisonnement peut exister, mais s'il faut vraiment mettre carte sur table, cette solidarité est là. Et elle est prête à être sortie quand il faut. Et donc, elle peut se manifester de diverses manières, mais on ne verra pas nécessairement une ingérence d'un organisme acadien du Nouveau-Brunswick dans une question néo-écossaise. Donc, la solidarité est là, mais elle peut rester symbolique. Cela étant dit, il peut y avoir des juristes acadiens d'une province qui interviennent en faveur d'un dossier dans une autre province, là, ça fait très régulièrement.
Je comprends. Comment est-ce qu'on nous regarde, nous, les Québécois?
Ben, ça dépend à qui on pose la question. Je dirais que dans nos organismes acadiens, on voit le Québec d'un très bon œil. Et je dirais que depuis une quinzaine d'années, on voit les retombées de programmes en faveur de la francophonie acadienne. Néo-écossaise. Donc, évidemment, il peut y avoir des frictions pour des raisons historiques, politiques, mais dans mes milieux, on apprécie beaucoup l'appui du Québec et on apprécie beaucoup les rapports positifs qui peuvent exister, certainement.
J'ai l'impression que vous parlez de Never Neverland. Vous savez, dans Alice, pas Alice au Pays des Merveilles, mais dans le Magicien d'Oz, tout est beau, tout est magnifique. C'est rare dans cette chronique sur le Canada, la francophonie hors Québec, que les nouvelles soient si apaisées, positives, encourageantes. Ça fait du bien.
C'est vrai, c'est surtout par les temps qui courent. Alors c'est un peu pour ça que je voulais faire un tour d'horizon de ces dossiers, pour qu'on voit qu'il y a des choses en fait qui se passent plus ou moins correctement et qui vont peut-être aller mieux. Hein.
Clint Bruce, le titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et transnationales à l'Université de Sainte-Anne, il n'y a pas de deux, en Nouvelle-Écosse, chroniqueur une fois par mois sur la francophonie canadienne ou même louisianaise, surtout ça c'est votre grand truc. On vous retrouve donc dans 4 à 5 semaines?
Absolument.
Merci beaucoup, Clint, et bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
À venir sur les ondes de Radio-VM, la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient après la pause publicitaire.